Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 décembre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Méga manœuvre militaire iranienne, le décodage. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, funérailles de l'ambassadeur iranien en poste au Yémen, en Iran. Téhéran a diverses idées pour développer les relations avec Bakou. Déclaration ce matin du ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdullahian. Et puis les pourparlers de Vienne, l'administration américaine réitère ses menaces contre l'Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les Iraniens ont fait leur dernier adieu à l'ambassadeur du pays au Yémen, Hassan Irlou, décédé mardi des complications de Covid. Les funérailles ont eu lieu dans la capitale Téhéran, en présence de différents groupes de la société iranienne, ainsi que de hauts responsables politiques et militaires. Hassan Irlou a été transféré en Iran pour y être soigné au cours du week-end, mais un retard dans son vol d'évacuation depuis Sana'a a aggravé sa maladie. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également commémoré le souvenir du diplomate lors d'une cérémonie distincte mardi. Le feu ambassadeur iranien a déployé de vastes efforts visant à faciliter la fourniture d'aide humanitaire au Yémen, alors que le pays est le théâtre des frappes aériennes massives et d'un blocus paralysant de la coalition d'agression militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et saoudiens se sont brièvement rencontrés au Pakistan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré mardi que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, et son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, avaient eu une brève réunion à Islamabad en marge de la conférence de l'OCI sur l'Afghanistan. Khatibzadeh a informé les médias lors de sa conférence de presse hebdomadaire de l'actualité tout en disant qu'aucun nouveau développement à cet égard n'a été signalé jusqu'à présent. Nous attendons toujours la réponse de Riyad. Dans la mesure où ils feront preuve de sérieux, nous sommes prêts à faire avancer les négociations tant sur les développements régionaux que sur les relations bilatérales. Nous invitons Riyad à recourir à des solutions politiques et diplomatiques et à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Les plans régionaux globaux peuvent également être appliqués dans le respect mutuel et la compréhension des réalités de ces pays, a déclaré Khatibzadeh. Le site internet New Arab, également rapportant cette réunion, a écrit que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés et se sont entretenus à Islamabad sur les relations bilatérales et l'Afghanistan. Nous avons diverses idées pour développer les relations avec Bakou, a déclaré lors de son déplacement à Bakou Hossein Amir Abdullahian. Nous sommes très heureux que les relations entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan se développent, a déclaré le très haut diplomate iranien, ajoutant qu'il avait diverses idées pour élargir les relations avec Bakou. Lors de sa visite en République d'Azerbaïdjan, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes « Au cours de cette visite, nous aurons des réunions de haut niveau avec les responsables de la République d'Azerbaïdjan. Au cours des 3 derniers mois, j'ai eu de nombreux contacts avec mon homologue azerbaïdjanais et les deux parties ont convenu de bons cadres pour le développement de la coopération bilatérale. » Au cours de cette visite, nous finaliserons ces cadres lors d'une réunion avec le président azerbaïdjanais. Puis, nous assisterons aux réunions communes de délégations économiques, commerciales et culturelles des deux pays, a précisé encore le chef de la diplomatie iranienne. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran est arrivé à Bakou ce mercredi pour rencontrer les responsables de la République d'Azerbaïdjan. Lors de son déplacement, le patron de la diplomatie iranienne discutera des moyens d'élargir les relations bilatérales ainsi que des développements régionaux avec les hauts responsables de la République d'Azerbaïdjan. Les États-Unis ont réitéré leurs menaces contre l'Iran, affirmant que d'autres options sont disponibles en cas d'échec des pourparlers sur la relance de l'accord de 2015. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'il restait peu de temps pour les négociations dans la capitale autrichienne. Par ailleurs, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran a déclaré qu'il ne restait que quelques semaines pour sauver l'accord, également connu sous le nom du plan global d'action conjoint PGAC. Selon Robert Mallet, il y aura une période d'escalade de la crise si les États-Unis concluent que l'accord n'est plus valide. L'Iran a tenu plusieurs cycles de négociations avec les autres signataires du PGAC ces derniers mois. L'accord a été plongé dans le chaos après que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord et ont réimposé des sanctions contre l'Iran en 2018. Téhéran exige une levée concrète et vérifiable de toutes les sanctions et des garanties que Washington ne se retire plus de l'accord. Le Japon coopérera avec l'Iran dans la lutte contre le COVID-19. L'ambassadeur japonais en Iran, Katushi Aikawa, a déclaré mardi que la lutte contre le COVID-19 n'était pas encore terminée et que le gouvernement japonais tentait de coopérer avec l'Iran dans la lutte. Dans une interview exclusive avec l'IRNA, l'ambassadeur du Japon a déclaré que le Japon avait fait don à l'Iran de quelque 3 millions de doses de ses vaccins COVID-19 développés dans le pays, dont une partie a été inoculée aux immigrants afghans dans le pays. Aikawa a déclaré qu'au cours de sa visite dans la province iranienne du nord-est de Khorasan-Razavi, il avait visité la frontière commune entre l'Iran et l'Afghanistan. Se référant au récent développement en Afghanistan, il a déclaré que Tokyo essaie d'avoir plus de coopération avec l'Iran pour aider les réfugiés afghans. L'Iran dévoile son premier moteur diesel marin de fabrication nationale. Le premier moteur diesel marin de fabrication iranienne a été dévoilé mardi, tandis que 2 destroyers révisés ont rejoint les forces navales de l'armée. Lors d'une cérémonie mardi, en présence du commandant de l'armée de terre iranienne, le contre-amiral Shahram Irani et du vice-président pour la science et la technologie, Surena Satori, le premier gros moteur diesel marin de fabrication iranienne, intitulé Markan, est la plus grande usine d'innovation de l'industrie maritime à Bushehr, dans le sud de l'Iran, et quelques autres réalisations navales ont été dévoilées et inaugurées. Le moteur diesel naval iranien est capable d'augmenter la vitesse des navires militaires jusqu'à 30 nœuds. Auparavant, la vitesse de ces navires était de 15 nœuds. Déclarant que le moteur diesel est entièrement conçu et construit par les jeunes experts à l'intérieur du pays, l'amiral Irani a déclaré que les pièces de son moteur sont entièrement de fabrication iranienne et seront installées sur les navires de guerre iraniens. L'ONU s'est dite mercredi contrainte de réduire l'aide alimentaire au Yémen, faute de fonds nécessaires, mettant en garde contre une augmentation de la faim dans ce pays en guerre ravagé par l'une des pires crises humanitaires au monde. Pays la plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est dévasté par l'offensive saoudienne depuis 2015. Le programme alimentaire mondial PAM est contraint de réduire l'aide humanitaire au Yémen, a prévenu cet organisme de l'ONU, mettant en garde contre l'impact de cette annonce alors que la faim augmente. L'OPAM manque de fonds nécessaires pour continuer à fournir une aide alimentaire à 13 millions de personnes au Yémen, a-t-il expliqué dans un communiqué. À partir de janvier, 8 millions de personnes recevront une ration alimentaire réduite, tandis que 5 millions de personnes risquent de sombrer immédiatement dans la famine continueront à recevoir une ration complète, a précisé toujours le PAM. Quelque 80% des 30 millions d'habitants du Yémen dépendent de l'aide internationale. L'agence onusienne a estimé que plus de la moitié de la population du Yémen, soit 16,2 millions de personnes, est confrontée à une famine aiguë et la moitié des enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition. Le PAM a dit avoir besoin de 813 millions de dollars, soit environ 721 millions d'euros, pour continuer à aider les plus vulnérables au Yémen jusqu'en mai. L'objectif de l'ONU était de lever 3,85 milliards de dollars, mais seulement 1,7 milliard ont été promis par une centaine de gouvernements et des donateurs particuliers. Enfin, en France, le nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19 devrait atteindre les 100 000 par jour d'ici la fin de l'année, avec la propagation du variant Omicron plus contagieux, a prévenu mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran. Olivier Véran, qui s'exprimait sur BFM TV et RMC, a précisé que ce variant, qui représente actuellement entre 20% et 30% des contaminations en France, devrait devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel An. Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier en France, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 15% par rapport au lundi précédent, a annoncé le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, ajoutant qu'il n'y a pas de consensus sur l'extension du pass sanitaire au lieu de travail. Les services de soins critiques étaient toujours mardi au-dessus de la barre des 3 000 patients atteints du COVID-19, selon les chiffres annoncés par les autorités. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Méga manœuvre militaire iranienne, le décodage. Plusieurs médias étrangers ont réagi lundi soir à un nouvel exercice militaire organisé par le Corps des gardiens de la révolution islamique CGRI dans le sud de l'Iran. La chaîne de télévision britannique Sky News a rapporté que l'Iran avait fait l'étalage lors de cet exercice de ses différents types de missiles. L'Iran rejoint le cercle des pays qui dévoilent au cours de leurs manœuvres les équipements qu'ils testent, a rapporté Sky News, en diffusant une vidéo de l'exercice du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. De son côté, la chaîne d'information russe Russia Today a rapporté que l'Iran avait tiré ses missiles balistiques et de croisière pendant son nouvel exercice. Les missiles balistiques dont dispose l'Iran ont une portée de 2000 km, ce qui signifie qu'ils peuvent toucher les bases militaires américaines dans la région ainsi que des cibles en Israël, territoires occupés palestiniens, ajoute Russia Today. À ce propos, Reuters a écrit « L'Iran a mis en garde contre toute action de la part d'Israël qui s'oppose aux efforts des puissances internationales pour restituer l'accord nucléaire de 2015, une action qui pourrait provoquer sa réponse foudroyante. » De son côté, la chaîne d'information russe Russia Today a rapporté que l'Iran avait tiré ses missiles balistiques et de croisière pendant son nouvel exercice. Les missiles balistiques dont dispose l'Iran ont une portée de 2000 km, ce qui signifie qu'ils peuvent toucher les bases militaires américaines dans la région, ainsi que des cibles en Israël, territoire occupé palestinien, ajoute Rachat Today. 5 missiles de croisière et des drones armés ont attaqué simultanément les cibles prédéterminées, réitère Reuters. Dans ce droit fil, le quotidien israélien Jerusalem Post a écrit dans un article « L'Iran fait étalage de ses capacités balistiques dans le cadre de l'exercice du Grand Prophète 17 ». Au deuxième jour de son exercice, l'Iran a exploité ses missiles, ses drones et ses autres équipements. Et les missiles balistiques sol-sol qui ont été tirés ont touché les cibles prédéterminées. L'Iran a déclaré avoir simulé un scénario dans lequel les navires de l'ennemi fictif ont détruit par le tir des missiles sol-sol et sol-mer, a-t-on appris de l'article du Jerusalem Post. L'exercice de Grand Prophète 17 se déroule pendant 5 jours sur les côtes du Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz et dans les zones générales des provinces d'Ormuzgan, de Boucher et de Khuzestan. L'exercice implique les forces terrestres, navales et aérospéciales du CGRI.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les Émirats arabes unis qui avaient fait une commande de 80 Rafales, des avions de combat très sophistiqués auprès de la France, ont décidé tout d'un coup de céder une partie de sa flotte de Mirage à l'Égypte, mais également au Maroc. C'est une première. Mais également, il faut également citer l'Algérie, qui a également cédé au charme de la vente d'armes par la France, qui a également commandé beaucoup de rafales à cette dernière. Alors, il reste à savoir comment cette vente d'armes très onéreuse, mais également parfaitement calibrée par la France, est poussée par Israël ou non. C'est ce que nous allons essayer de voir avec des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Après avoir fait une commande ferme de 80 avions de combat Rafale auprès de la France, les Émirats arabes unis s'apprêtent à céder une flotte de 68 avions de combat Mirage 2009 au Maroc et à l'Égypte. À l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, les Émirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale, indiqué l'Élysée dans un communiqué précisant qu'il s'agit de la commande internationale la plus importante jamais enregistrée pour cet avion de chasse mis en service depuis 2004. Cette commande vise à remplacer la soixantaine de Mirage 2009 acquis en 1998 par les Émirats et dont une partie sera transférée au Maroc et l'autre à l'Égypte. Le Mirage 2000 est la dernière version de ce type qui a été fabriquée en France pour l'UAE Air Force. L'avion est équipé des technologies très avancées qui lui permettent de mener des attaques aériennes de haute précision. Le Maroc est également sur le point d'acquérir 8 hélicoptères Caracal H-225M qui viendront s'ajouter à sa flotte militaire. Ce contrat, qui vient à point nommé la conclusion de négociations portant sur un contrat d'acquisition de 8 hélicoptères H-225M Caracal auprès d'Airbus Hélicoptères, ont réuni les parties marocaines et françaises. De son côté, le Maroc est déterminé à réaliser le plan de modernisation de son arsenal militaire qu'il a entamé ces dernières années, alors que le projet de loi de finances marocain pour 2022 a alloué 12,8 milliards de dollars pour l'achat et la réparation d'équipements pour les forces armées royales marocaines.
Voilà pour le reportage. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts des questions internationales, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions politiques depuis Paris. M. Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui est avec nous également depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bien, nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite avec ma première question à l'égard de M. Bernard Cornu depuis Paris. Alors, M. Cornu, bien sûr, la France qui essaye de vendre des armes très, très sophistiquées à certains pays de la région, en commençant par les Émirats arabes unis, mais également la France va au-delà de là et vend des armes au Maroc, à l'Égypte et à l'Algérie, qui va très certainement déboucher sur l'instabilité et peut-être pas la guerre. Que pensez-vous ?
Disons, moi je suis en général pour un désarmement total et qu'une sécurité organisée au niveau mondial, global, qui couvre non seulement les aspects militaires, mais d'autres aspects de santé et de sécurité contre le banditisme et tout ça. Donc, de toute façon, je suis contre ces ventes d'armes et pour le désarmement global. Mais il est assez logique que la France cherche et le gouvernement actuel cherche à promouvoir des ventes. Notre ministre des Affaires étrangères était député dans une région qui fabriquait des armes et il est très intéressé par ce sujet-là, beaucoup plus que par rechercher la paix, y compris au Yémen ou à la guerre en Syrie où la France est impliquée malheureusement aux côtés des Américains. Et donc face à des pays très riches comme les Émirats, il est aussi logique malheureusement qu'ils cherchent à moderniser leur armement et à s'attirer les faveurs de la France, voilà, malheureusement, face à l'Égypte qui aurait d'autres choses à acheter que des armes et qui n'en a pas vraiment besoin, on peut être beaucoup plus sceptique et disons déçu même de cette attitude de la France. Ce que je remarque, c'est que quand même il y a eu des dialogues politiques dans la dernière tournée du président Macron au Qatar, dans les Émirats et en Arabie Saoudite. Et j'espère que, même si je ne le sais pas, j'espère qu'il a pu discuter avec les Émirats, ce client très fortuné, qui récemment s'est sorti en grande partie de la guerre au Yémen, discuter aussi du conflit en Syrie, puisque un ministre des Émirats s'est rendu récemment à Damas. Et dans le but de négociation, donc on ne connaît pas le détail, dans le but peut-être aussi de faire rentrer à nouveau la Syrie dans la Ligue arabe, dont elle était suspendue malheureusement, de façon très injuste. Donc est-ce qu'il y a eu des discussions de paix ? Si effectivement il y a eu ces discussions tendant à trouver des solutions politiques en Syrie, à cesser les combats, cesser les envois de mercenaires, financé par les pays riches du Golfe, alors effectivement cette visite serait positive et je voudrais bien éventuellement, disons, excuser ou pardonner cette vente d'armes que je ne souhaitais pas. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est le dialogue pour la paix avec les pays qui ont une influence dans cette région-là, a priori parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'ils ont du gaz et aussi parce qu'ils sont riches et qu'ils ont les moyens de financer des mercenaires, y compris au Yémen d'ailleurs, où le Soudan a été prié d'envoyer des mercenaires sur le terrain. Voilà, donc je pense que ces considérations d'ensemble sont importantes. La paix est prioritaire, les armements ne sont pas nécessaires.
Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, Philippe Hugon, d'abord, merci d'être avec nous. Alors, le ministre de la Défense s'est rendu en Algérie. Et voilà que maintenant, le président français se rend aux Émirats arabes unis et ont l'audace, tous les deux, de parler de la paix, alors qu'ils sont là pour vendre des armes qui vont certainement déboucher sur l'instabilité et même sur la guerre. Que pensez-vous ?
Oui, alors je pense qu'il faut d'abord se poser cette première équation, c'est de savoir combien rapporte la paix. La paix ne rapporte pas d'argent. La paix, elle en coûte de l'argent. La vente d'armes rapporte énormément d'argent, mais des sommes absolument colossales. Donc, on ne va pas passer à côté d'un tel marché. Et quand je dis « on », bien sûr, c'est la France. C'est à la fois les industriels qui collaborent avec les fabricants d'armes et avec les vendeurs d'armes, pardon. Et donc, on peut estimer aujourd'hui que ce marché avec les Émiratis, mais pas seulement avec les Émiratis, c'est le cas avec tous les pays, Maroc, Algérie, tout ce que vous voulez, dès l'instant où vous avez des de pareilles sommes en jeu, eh bien, on a un vrai dicton en France, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Le problème, c'est que la vente de ces armes va obligatoirement créer des zones de tension et va déstabiliser un certain nombre de gouvernements et qui va pouvoir interagir et faire pression sur d'autres pays moins bien équipés, moins bien préparés à la guerre. Alors, il faut savoir qu'on a cette deuxième équation qui est la surpopulation que l'on a à travers le monde. Hein. On est bientôt 8 milliards. On sait très bien que le monde, la planète, ne peut pas supporter un tel poids et que dans les 15 ans qui viennent, il faudra éliminer 4 à 5 milliards de personnes si on veut conserver un certain équilibre. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, on est à l'aube d'une famine mondiale, personne n'en parle. Tout le monde fait l'autruche, les mines de phosphore sont en train de s'assécher et on va avoir une période extrêmement instable dans les années qui viennent. La crise financière va nous rattraper également, mais là je pense que ça demandera 5 à 6 ans afin de retrouver une crise absolument gigantesque comme on n'en a pas connu à travers le monde actuellement. Donc on a actuellement une conjoncture de situation qui va nous mettre dans une situation extrêmement complexe. Alors bien sûr que je suis contre la vente de ces armes, hein. On ferait mieux de fournir des produits alimentaires et des médicaments à des pays qui en ont vraiment besoin plutôt que de financer ces armes de mort, puisque ces armes serviront. Il faut bien savoir que ces armes ne sont pas anodines et ces armes vont servir dans les années qui viennent à répandre la mort. Donc je ne peux pas collaborer et cautionner cette vente d'armes. Mais il faut savoir que la France est en faillite financière, qu'on a une situation économique absolument catastrophique. Et comme je vous le disais, l'argent n'a pas d'odeur. Donc quand on peut récupérer des marchés et prendre des marchés à d'autres nations, eh bien on ne va pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. On continuera de vendre des armes comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas, l'histoire ne date pas d'hier, hein. On a vendu des armes en Afrique, on a vendu des armes en Asie, on a vendu des armes de partout. Et si en plus cette vente d'armes permet de rapporter beaucoup beaucoup d'argent et de pouvoir ingérer dans un certain nombre de pays et créer des zones de déstabilisation, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou en Asie, ce phénomène-là ne pose pas du tout un problème moral à nos politiques et à nos financiers. Donc il faut bien s'attendre à ce que ces ventes d'armes se réalisent d'une façon permanente à un certain nombre de pays qui, je dirais, sont entre guillemets pas respectables.
Oui, vraisemblablement, vous êtes tous les deux contre la vente d'armes, mais le gouvernement français ne voit pas cette affaire de cet œil-là. Bernard Cornu, il faut savoir que quand même, cette vente d'armes s'effectue malgré tout, mais la question qui se pose, Bernard Cornu, est la suivante. Pourquoi cette politique de deux poids deux mesures? D'une part, on envoie des émissaires partout dans le monde pour défendre le droit de l'homme et parler de la paix en Algérie, par exemple, et de l'autre côté, on vend des armes qui vont certainement déboucher sur la mort de centaines et des milliers de personnes.
C'est sûr qu'il y a une contradiction de fond. Nous sommes conscients en France et nous connaissons les violations des droits de l'homme évidentes qui sont dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, le principal, c'est là où il y a le plus de violations, mais aussi d'autres pays riches qui ne respectent pas les droits liés à la pratique des religions, qui ne respectent pas certains droits des femmes. Effectivement, nos pays occidentaux sont un peu hypocrites de pouvoir accepter de vendre des armes à ces pays-là sans discuter fermement, publiquement, des droits de l'homme. Alors certains dirigeants disent qu'ils en discutent en privé en évitant des proclamations publiques. On ne peut pas rendre compte effectivement de ces discussions privées s'il n'y a pas de communiqué à la suite. Je voudrais quand même nuancer la paix. La paix rapporte de l'argent parce que la paix maintient les clients, alors que la guerre détruit nos clients pour des produits généraux, des réfrigérateurs, des télévisions, de l'alimentaire, des machines et tout ça. La guerre détruit nos clients, détruit l'économie des autres pays et donc elle est très nocive. Et il faut donc promouvoir beaucoup plus la paix pour que l'ensemble du monde se développe. Si les armements génèrent de l'argent, ça les génère pour un secteur très précis de la technologie, très avancé. Pour des gens, les marchands d'armes, on a vu parfois dans des ventes dans différents pays des commissions qui faisaient plusieurs centaines de millions de dollars et qui revenaient en partie vers les politiques qui étaient en connivence avec ces marchands d'armes. Et donc ceci est très dommageable pour la stabilité même de nos pays. Et d'ailleurs, des enquêtes sont encore en cours en France sur des affaires au Pakistan, sur des affaires en Libye. Et donc il est important que la justice aille jusqu'au bout pour dévoiler tout ce qui a entouré ces ventes d'armes. Et d'ailleurs, pendant la guerre Irak-Iran, il y a eu des ventes d'armes actionnées par les Américains, par les Israéliens, pour que le conflit dure. Donc les marchands d'armes sont toujours très présents pour entretenir les guerres et parfois même les démarrer. Et donc ceci doit être analysé de très près et chaque fois qu'il y a des actions en justice, il faut les pousser jusqu'au bout. Je pense que l'espérance du monde est que dans une justice qui fonctionne au niveau universel et jusqu'à des chefs d'État, quand ces chefs d'État ont menti, ont abusé de la confiance des gens, ont manipulé les médias pour provoquer des guerres.
Bernard Cornu, revenons encore une fois à cette vente d'armes par la France à certains pays, dont l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis tout récemment. Mais tout reste à savoir, Bernard Cornu, que cette vente d'armes onéreuses est parfaitement calibrée par la France et, oui ou non, poussée par Israël. Car Israël a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région. Que pensez-vous?
C'est difficile à répondre parce que c'est vrai qu'au Maroc, il y a toujours eu des relations maintenues entre le Maroc et le royaume du Maroc et l'État d'Israël, où il y a de nombreuses communautés marocaines. Il y a eu des visites d'État, enfin de ministres, il y a des connivences importantes entre le Maroc et Israël. Donc, à l'opposé, l'Algérie a toujours soutenu, par exemple, le mouvement palestinien. On l'a vu encore récemment lorsque l'Algérie a gagné une coupe de football arabe contre le Maroc et que tous les joueurs se sont déployés sur le terrain en affichant non seulement le drapeau algérien mais aussi un grand drapeau palestinien. Donc ceci était une façon symbolique de s'opposer à la position non pas du peuple marocain mais des autorités marocaines qui facilitent leurs relations avec Israël et établissent des connivences avec les services secrets israéliens. On l'a vu récemment avec les publications sur le réseau, l'utilisation du logiciel d'origine israélienne Pegasus. Donc je pense que dans certains pays, il y a des connivences entre les marchands d'armes, même les autorités françaises du ministère des Affaires étrangères et les autorités israéliennes. Dans le cas des Émirats, c'est moins sûr. C'est sûr que suite aux actions de temps de Trump et de son gendre Kouchner, il y a eu le rétablissement de certaines relations diplomatiques. Mais je pense qu'en général, la population arabe est tout à fait contre, et même dans les pays riches, est tout à fait contre cette normalisation avec l'État d'Israël tant que la justice ne s'est pas exercée pour rétablir les droits des Palestiniens. Voilà, mais c'est une lutte permanente des peuples ici en Occident aussi pour imposer la priorité à la justice et non pas à l'économie et aux ventes d'armes.
Oui.
Philippe, il y a des grandes manifestations à Londres. D'ailleurs, je fais partie d'un mouvement à Londres conduit par la gauche anglaise contre les guerres qui fait très souvent des manifestations. Et en France aussi, il y a des manifestations nombreuses aussi du mouvement de la paix pour protester contre ces ventes d'armes et l'incitation à laisser continuer des guerres comme au Yémen ou en Syrie ou en Irak pour des intérêts économiques.
Oui, tout à fait. Philippe Hugo, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, à cet égard, comme la France nourrit en armes le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui soutient la cause palestinienne et le Maroc qui a rétabli sa relation avec Israël. En nourrissant ces deux pays-là, je crois qu'on nourrit le différend qui devrait donc continuer entre ces deux pays-là. Que pensez-vous ?
Oui, alors, vous savez, c'est ce que je vous disais, l'argent n'a pas d'odeur. Aujourd'hui, la France vend des armes à n'importe qui et il suffit de passer par des sociétés dans des paradis fiscaux qui permettent de contourner un certain nombre de lois. Ça, moi, j'en ai été témoin lorsque j'avais mon entreprise d'exportation. Eh bien, pour éviter les sanctions, on passait par des sociétés annexes ou de petites sociétés. Il y a même des grosses sociétés françaises qui passaient par ma petite société pour vendre un certain nombre de produits à certains pays qui étaient sur liste rouge. Donc là, je suis bien placé pour en parler et de savoir comment se passent les choses aujourd'hui. Alors, bien sûr, il est clair que la France ne renoncera jamais à la vente de ces gros contrats, quel que soit le prix à payer en vie humaine pour un certain nombre de pays. Vous savez, je crois qu'on est aujourd'hui dans la société occidentale, une société qui est basée sur l'argent, où le statut de valeur de l'être humain se joue sur la grosseur de son compte en banque. Donc on sait très bien que tous les pays qui ont basé leur valeur naturelle sur l'argent, leur valeur de base sur l'argent, sont des pays qui se sont tous effondrés, puisque l'argent n'est pas une bonne valeur de référence sur la qualité des gens et des peuples. Au contraire, cet argent, elle corrompt les gens, elle pourrit les gens, et elle fait prendre des décisions à des gouvernements qui ne sont pas de bonnes décisions. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement néfaste ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'investir de l'argent dans la paix, de façon à trouver des solutions pérennes et de ne pas affamer les gens, de ne pas... c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous allez en Afrique, vous savez, j'ai eu un bureau à une époque au Bénin, en Afrique, et on a vu comment les choses se passaient au Mali, comment les choses se passaient au Niger, Donc on sait très bien qu'il existe des solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les appliquer, parce que ce sont des solutions qui ne rapportent rien. Du moins, ça pourrait rapporter à long terme, mais à très court terme, ça ne rapporte rien. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés qui vendent des armes... Oui.
Philippe Hugon, justement, la même question que j'ai posée à Bernard Cornuc à cet égard, c'est cette vente d'armes qui est calibrée, organisée par la France à ces pays-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est encouragé et même poussé par Israël, qui a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région ?
Alors, en ce qui concerne le Proche-Orient, c'est autre chose. Il est vrai que Israël est dans une position économique qui est effroyable, hein. Il suffit de regarder les ratios financiers d'Israël. C'est un pays qui n'existe et qui ne tient que par l'aide américaine aujourd'hui, et que Israël a tout intérêt à créer des zones de stabilité au Proche-Orient afin de pouvoir conserver ses frontières et son pays. On sait très bien que le jour où la Ligue arabe et tous les pays arabes seront solidaires, je ne donne pas cher de la continuité de ce pays. De toute façon, il ne faut pas vous faire des illusions. Dans 20 ans, Israël n'existera plus sous cette forme actuelle. Et Israël ne pourra plus tenir, car c'est une situation intenable. Quand on tient un pays par la force, et c'est le cas notamment d'Israël, on l'a vu dans les pays communistes notamment, il arrive à un moment donné où vous arrivez dans une position qui est intenable, intenable financièrement, intenable économiquement, intenable militairement. Donc pour l'instant, si Israël existe encore, c'est parce qu'il y a des dissensions dans les nations arabes au Proche-Orient. Le jour où ces nations-là seront réunies et seront solidaires, notamment de la Palestine, eh bien je ne donne pas cher de la situation d'Israël dans sa forme actuelle, j'entends. Hein. Donc il est clair qu'Israël a tout à gagner à ce qu'il y ait une situation instable au Proche-Orient.
Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir à cet égard, je vous prie?
Bon, il faut savoir que dans l'industrie d'armement, il y a beaucoup d'électronique. Et que l'électronique, c'est très compliqué à comprendre les codes informatiques, le codage informatique qui est à l'intérieur de ces, de toute cette partie électronique. Donc, d'une part, il est sûr que Dassault était dirigé avant par un juif français qui avait vendu les Mirages et les autres avions à Israël, et à une époque où la France, disons un peu avant De Gaulle, était tout à fait favorable géopolitiquement à l'État d'Israël et donnait des faveurs exceptionnelles pour ses ventes d'armes. Et à partir du moment où De Gaulle a commencé à vouloir refuser et limiter ses ventes d'armes, il y a eu même des détournements. On a connu l'épisode des frégates de Cherbourg qui ont été prises contre la volonté française et emmenée discrètement en quelques jours par des équipes israéliennes qui ont fait ce coup de force. Donc, il est difficile de dans ces codages informatiques qui sont dans les armements, je pense qu'il y a de toute façon à la main du ministère de la Défense français la possibilité à distance de télécommander certaines de ces fonctions informatiques. Par exemple, pour le cas où les Émirats arabes unis voudraient attaquer un pays très ami de la France, très allié de la France, comme le Liban ou la Grèce, pour des raisons tout à fait imaginaires actuellement, mais je suis sûr qu'à distance, on peut tout à fait manipuler ces dispositifs informatiques, ces codes informatiques, pour empêcher toute utilisation contre nos propres intérêts. Donc je pense que tous ces armements sont des leurres, parce qu'il y a beaucoup d'informatique qu'il est très difficile à décoder, donc il est possible qu'on se fasse rouler, en fait, que tout acheteur de ces armements sophistiqués se fasse rouler, qu'il puisse pas. Alors il peut effectivement dans des conflits dans lesquels la France n'aurait pas d'alliés, ça pourrait servir, mais dans des conflits où la France aurait des alliés, ça pourrait être désarmé à distance. Ça, j'en suis persuadé, c'est une évidence de l'informatique très complexe des systèmes d'armes modernes.
Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Hugon, qui était également avec nous depuis Paris, d'avoir apporté donc ces explications à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
De la domination américaine sur la finance mondiale. L'architecture financière centrée sur l'Amérique est une énorme source de pouvoir. La plupart des échanges internationaux se font en dollars américains. Les paiements sont transférés via le système de transaction SWIFT sur lequel les États-Unis ont une immense influence. Et en même temps, le financement par les banques d'investissement dirigées par les États-Unis. Les dettes sont payées et sont notées par les agences de notation de ce pays, qui sont même en charge des affaires de crédit américaines importantes et majeures. Ces outils économiques du pouvoir permettent à Washington de construire un empire. Il peut gérer d'énormes déficits commerciaux, collecter des données sur ses ennemis, traiter ses alliés favorablement et vaincre ses ennemis. Et pourtant, l'architecture financière centrée sur l'Amérique n'est plus viable. La Maison-Blanche a perdu le contrôle de sa balance commerciale négative. Sa spirale d'entêtement est hors de contrôle et l'inflation galopante détruit sa monnaie. Ce qui a aggravé les choses, c'est que Washington utilise son architecture financière comme un outil de politique étrangère en imposant des sanctions à ses ennemis. La stratégie sécuritaire américaine confirme que la Chine et la Russie sont les deux principaux pays cibles de Washington, ce qui nécessite la création d'une architecture financière alternative distincte des États-Unis pour Moscou et Pékin. La solution réside, semble-t-il, dans la dédollarisation qui créera la réduction de la dépendance vis-à-vis du dollar américain comme monnaie de réserve et de taux de change, et c'est très difficile car le rôle dominant du dollar est défini pour le système financier international depuis plus de 75 ans. Le dollar a maintenu sa position forte pour trois raisons. La grande taille de l'économie américaine, le maintien de la valeur du dollar en maintenant l'inflation à un niveau bas et un marché financier ouvert et liquide. Alors que l'économie américaine se contracte relativement, que l'inflation devient incontrôlable et que les marchés financiers sont utilisés comme une arme, le dollar perd rapidement ses bases. Le partenariat financier entre la Chine et la Russie, en tant que plus grand importateur et exportateur d'énergie au monde, est un outil nécessaire pour éliminer le dollar pétrolier. En 2015, près de 90% des échanges entre la Russie et la Chine étaient en dollars. Mais en 2020, le commerce en dollars des deux géants eurasiens avait diminué de moitié, avec seulement 46% en dollars. La Russie a également été à l'avant-garde de la réduction de la part du dollar américain dans ses réserves de change. Les mécanismes de dédollarisation du commerce sino-russe sont également utilisés pour mettre fin à l'utilisation des dollars américains avec les pays tiers. Des progrès dans ce domaine ont été observés dans des endroits tels que l'Amérique latine, la Turquie, l'Iran, l'Inde, etc. Les États-Unis injectent leurs dollars dans le monde depuis des décennies et dans certains cas, le flux change et le dollar se déprécie considérablement. Opération financière. SWIFT était autrefois le seul système de paiement international permettant d'effectuer des transactions financières entre les banques du monde entier. Le rôle central de SWIFT a été perdu lorsque les États-Unis l'ont utilisé comme arme politique. Les Américains ont d'abord chassé l'Iran et la Corée du Nord de SWIFT. Et en 2014, Washington a commencé à menacer la Russie de l'expulser du système. Au cours des dernières semaines, la menace d'utiliser SWIFT comme arme contre la Russie s'est intensifiée. La Chine a répondu avec CIPS et la Russie avec SPFS, qui ont tous deux remplacé SWIFT. Plusieurs autres pays européens se sont même alliés en créant une alternative à SWIFT pour limiter le pouvoir extraterritorial de Washington et ainsi continuer à commercer avec l'Iran. La nouvelle architecture financière de la Chine et de la Russie devrait intégrer le CIPS et le SPFS pour les rendre plus accessibles aux pays tiers. Si les États-Unis expulsent la Russie de SWIFT, la séparation avec SWIFT s'intensifiera. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement dirigée par les États-Unis sont des instruments bien connus de la politique économique américaine. La création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, dirigée par la Chine en 2015, a marqué un tournant dans l'architecture financière mondiale, alors que tous les principaux alliés des États-Unis, à l'exception du Japon, ont rejoint et se sont inscrits contre les investissements américains. Anciennement connue sous le nom de la Banque de développement BRICS, la nouvelle Banque de développement est allée plus loin en se séparant des banques dirigées par les États-Unis. La Banque eurasienne de développement et la Banque de développement de l'Organisation de coopération de Shanghai ont planté le dernier clou dans le cercueil des banques de développement contrôlées par les États-Unis. La Chine et la Russie ont également développé leurs propres agences de notation, remplaçant les cartes de crédit Visa et Mastercard dominantes dans leurs pays respectifs. Cette nouvelle architecture financière est complétée par un partenariat dans les domaines de l'énergie et de la technologie, car ni la Chine ni la Russie ne veulent dépendre des industries technologiques américaines alors qu'elles se dirigent vers la quatrième révolution industrielle. En outre, la Chine et la Russie tentent de s'éloigner des couloirs de transport dirigés par les États-Unis. la Chine a investi des milliards de dollars dans son initiative de ceinture et de route pour de nouveaux corridors terrestres et maritimes, tandis que la Russie a développé un programme similaire, mais plus simple, qui inclut le développement de l'Arctique comme route maritime en partenariat avec la Chine. Le financement et la gestion de ces programmes et corridors de transport de pointe auront un effet synergique positif sur la poursuite du développement de la nouvelle architecture financière internationale. Les États-Unis pourraient utiliser davantage de sanctions pour s'opposer au développement d'une architecture financière internationale multipolaire, mais la poursuite des menaces économiques et de la coercition ne fera qu'augmenter la demande de sécession des États-Unis. La première règle des sanctions est que lorsque les sanctions sont en place, les pays cibles apprendront à vivre. Ce qui a commencé comme une tentative d'affaiblir et d'isoler les ennemis de Washington a finalement conduit à l'isolement des États-Unis eux-mêmes.